émission On en jase sur l'heure du midi. Il est présentement midi, justement, ça tombe bien. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal. C'est vrai, Pascal, tu me regardes avec un petit sourire.
Tout est dans tout, hein? On en jase à midi. Il est midi.
Il est midi. Let's go! Hey, ça part, ça, c'est chapeau de roue à midi.
Oui.
418-971-101, évidemment, pour réagir. On va parler de plein de choses, certains qui vont me faire réagir, comme de l'immigration, de l'itinérance. Et on va aussi parler de Karl Malenfant. Oh! Antonine Iaccarini, même si on n'a pas pesé sur le bouton du caucus, là, il fait pitié, notre Karl. On dit, il est moins faire pied.
Il fait-tu pitié?
Ouais, il fait pas pitié. C'est juste qu'il il a débombé le torse.
Ouais, il est arrivé très de bonne humeur la semaine passée. Hein, le grand sourire.
Confiant.
Il parlait beaucoup aussi. On lui posait une question de 15 secondes. Il répondait pendant 8 minutes. Disons qu'il a changé d'attitude.
Là, il s'en tient au fait un peu plus. Hein, en effet, Karl Malenfant. Pascal CV, passez un beau week-end.
Absolument. Dans les derniers préparatifs, il faut que ça rentre 15 kilos dans le bagage.
Magique.
Sac de compression et tout ça.
C'est ça. Demain midi et demi, Joannie vient nous voir. On parle du Kilimanjaro.
Oui, Joannie qui est, elle, est très, très prête aussi.
Ah ouais, j'ai assez hâte que vous m'en parliez encore plus en détail. Je vous admire, les filles, d'aller faire ce beau défi.
Ben oui, toi qui fais un gros Irox en fin de semaine.
Oui, j'ai fait un Irox en fin de semaine avec ma blonde.
Tu peux bien parler.
Ça a été extraordinaire comme événement. Ça a été... j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis là, je vais être romantique 2 secondes et quart. J'ai adoré le faire avec ma blonde.
Mais c'est un autre type de date, hein? C'est, honnêtement, t'es en train de tuer ta vie.
Excusez mon ignorance.
Qu'est-ce
que c'est ça?
Un IROX, dans le fond, c'est que tu cours 1 kilomètre et tu t'en vas faire une épreuve physique et t'en fais 8 fois. Donc, tu cours au total 8 kilomètres en ayant fait 8.
C'est vraiment un week-end de rêve.
Effort physique.
C'est ma définition d'un cauchemar. Écoute, mais t'as l'air tellement content. Je suis contente de vous.
Ah, vraiment? On a vraiment, vraiment eu du plaisir.
Est-ce que vous êtes pognée? Puis...
Non, du tout.
Parce c'est des efforts physiques. Là. C'était un peu sarcastique avec le week-end de rêve. Là. Je trouve ça intense quand même, mais toi, t'étais en forme. Puis tout ça.
Non, au contraire.
Val, ta blonde aussi.
Ah oui, au contraire, on a profité de chaque instant, je te dirais. Donc, c'est ça. C'était vraiment, vraiment...
Vous n'étiez pas dans la performance pour gagner?
Non, on n'était pas du tout dans la performance pour
gagner.
Plaisir. On le faisait pour le plaisir. On l'a fait. Je me plais à dire qu'on le fait en 1h24 parce que c'est 1h24, 59 secondes et 99 centièmes
non,
de seconde.
Non, ça, c'est tellement à toi, là.
Et là, Val me dit, on l'a fait en 1h25. Je dis, non, il est écrit 1h24.
Ouais, félicitations.
Merci, non, honnêtement, ça a été une belle activité de couple. Puis oui, tu veux pas, au départ, tu sais, à un moment donné, on va te dire, ben ouais, qu'est-ce que tu fais? Puis, pas en tout, on avait notre plan de match. On a respecté le plan de match.
Donc, Anto, prépare-toi à mon retour, on fait pas ça.
Pas.
On ouvre une bouteille de vin.
Oui, c'est ça. Moi, c'est moins mon style, mais je trouve que ça peut rapprocher comme ça peut... éloigner, diviser, comme
ben, nous
disait Pascal.
Nous autres, ça nous a vraiment rapprochés.
OK, j'ai le goût de passer ton couple en test une seconde.
Ah ouais, donc.
Est-ce que vous vous chicanez quand vous allez au IKEA?
non, parce que je suis le genre de gars qui dit « Ouais, pas de trouble, jette-le. »
Ah, ça, c'est très bon.
Est-ce
très
que
bonne
c'est déjà
attitude.
Vécu, ça?
Ben, écoute, je pense que la
Tout
plupart
monde,
des couples ont déjà vécu ça. Puis, dernière question, est-ce que vous avez déjà eu à faire des rénos ensemble?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ça a été une épreuve de couple.
C'est dur.
Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est dur. Puis je l'ai déjà expliqué. C'est dur parce que Val voit toujours le big picture. Puis une chance que Val est dans ma vie pour ça. T'sais, je vais l'avouer, là. Moi, là, je suis pourri là-dedans de voir le...
Visualiser ce que ça peut donner.
Du plan.
Le potentiel.
Tu vois quoi? Tu vois les factures du plombier, de l'électricien,
moi, je vois
du plâtrier.
Moi, je vois l'activité que je suis en train de faire. Puis honnêtement, c'est parce que j'ai conditionné mon cerveau à ça. Je suis un gars qui fait beaucoup d'anxiété. Fait que je me concentre sur la tâche que j'ai à faire pour pas voir le big picture, pour pas paniquer.
Je comprends.
Et là, ben ça arrivait que Val, des fois, me parlait du big picture. Puis moi, je la ramenais toujours. Ben non, mais c'est pas grave, là, gars. On est en train de poser le plancher.
Une bouchée à la fois.
C'est le carreau à la fois.
Mais toi,
t'es
carreau
pas là-dedans,
à la fois.
Dans des rénaux?
Toujours dans des rénaux, mais mon chum a à peu près la même attitude que Jeff. Oui, chérie. Fait qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout va très bien.
Mais je comprends que je suis déstabilisant. Tu sais, dans le sens que... Là, le big picture montre qu'on ne rentrera pas dans l'échéancier. Mais moi, je suis comme, il n'y a pas de problème. On est en train de poser du plancher. C'est sûr que c'est énervant pour la personne qui me dit oui, il y a un problème.
Oui, parce que si on ne fait pas le plancher à temps, le gars qui vient poser les armoires ne peut pas venir. Puis là,
toi, ça, tu le sais. Puis tu sais qu'il y a des débordements de quoi à ce moment-là. Puis
C'est ça. Fait que c'est sûr que je deviens hyper stressant pour la personne qui me dit. Non, non, mes chéris, c'est parce que tu comprends pas, là. on est dans la merde. Puis moi, je suis comme, ah, c'est le soleil!
Mais peut-être que tu calmes aussi l'autre personne à tes, aussi. À, dans tes moments, tu sais. Parce que, oui. Mettons, t'as une journée débile. Là. Mettons, t'as une journée à Antonine et à Carini, tu fais de la radio, de la télé, t'analyses quelque chose, tu suis calme à l'enfant à la commission, ça n'arrête plus, t'as un enfant là-dedans. Mais peut-être que si tu te dis en tôt, OK, là, je suis en radio en ce moment, je suis dans le caucus, il y a Carini dans quelques secondes, je peux rien
on
faire
va vivre
d'autre,
le moment présent.
C'est là où je suis.
Je pense que oui. Mais ça peut être stressant. Quand t'es stressé ben puis t'as quelqu'un en face de toi qui est pas assez stressé, on dirait que tu dis, ben, il faut que je stresse pour deux. Ben... Il est complètement inconscient.
Ouais, puis c'est parce que dans ce temps-là, je le sais, je deviens pas un bon équipier. Mm. Parce que un bon équipier, c'est de regarder la personne et de dire, oui, je comprends ton stress.
De faire ta part.
Exactement.
Un peu, ouais.
Mais regarde, je le vois de même. Mais tu sais, je suis pas assez bon pour faire ça. Là, j'avoue une lacune que j'ai. Fait que moi, à la place, c'est comme. Ben non, ça
mais
va
c'est
se
quoi?
Ranger.
Tu le sais, Jeff. Donc, à partir du moment que tu le sais, c'est là où ça peut changer
exactement.
Ou s'améliorer.
Exactement.
Mais j'aime bien la technique de se dire, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Fait que moi, je vous suggère qu'on commence par la première bouchée. Vous voulez qu'on parte ça pour le caucus?
On y va comme ça.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Mais tu vois, je pense à ça avec l'IROX, on a fait les deux. Là. On a regardé le grand plan, on s'est dit, hey, toi, tu vas être meilleur là, tu vas en faire un peu plus. Moi là. Puis après ça, on l'a fait étape par étape.
Puis vous l'avez fait. Vous
avez... Puis on a réussi.
Vous êtes passé à travers, et vous êtes encore ensemble.
On aurait dû faire un IROX avant des Renault. Non,
à la place des Renault. Tant pis pour les Renault.
Il en reste encore un peu de Renault à faire. Et on va s'occuper de ça. Antonine Iaccarini, on commence par la première bouchée de François Legault qui est passée. Tout le monde en parle?
Ben oui, une entrevue. Disons que c'est des entrevues. Plus bon enfant. Hein. Tout le monde en parle. C'est pas un hot seat. Là. C'est pas l'entrevue où tu te fais rentrer dedans. Les politiciens aiment bien aller à Tout le monde en parle. C'est sûr que j'ai envie de dire les politiciens de gauche aiment encore plus aller à Tout le monde en parle. On s'entend que c'est un contexte qui est souvent plus favorable avec un public aussi qui est plus favorable à la gauche qu'à la droite. François Legault, c'était du pain béni pour lui de faire une entrevue comme ça.
Clairement, parce que tu as il n'y a pas vraiment de questions pièges. On laisse parler très longtemps sans
relancer. Tu peux
finir
ta pensée.
Exactement.
Alors que récemment, ben en fait, c'est comme ça un peu tout le temps. Quand on suit un politicien à travers les médias de nouvelles, là, les jours de semaine, ben c'est des petits clips de 15 secondes qu'on voit passer.
Vraiment.
Puis après ça, ben il y a beaucoup de commentaires politiques. Puis on analyse la petite clip de 15 secondes.
J'ai été cité hors contexte. On l'entend souvent en ce moment.
C'est comme s'il avait jamais dit ça, tu sais. Donc, une entrevue comme ça, plus longue, ben c'est sûr que c'est avantageux. Ça permet d'aller au bout de son idée. Pour moi, qui suis tout, puis que c'est la même affaire pour tous les deux qui suivent l'actualité et qui suivaient l'actualité à tous les jours, ben c'est sûr qu'on n'a rien appris vraiment. Il y avait une petite nouvelle concernant les médecins, là, disant qu'on doit aller jusqu'au bout, peut-être avec une loi spéciale. Mais sinon, François Legault avait fait une tournée d'entrevues. C'est toutes des choses qu'on avait déjà entendues.
On avait su, tournée d'entrevue à Québec, tournée d'entrevue à Montréal. On va justement y aller avec la loi spéciale, justement, qui peut être l'élément de nouveauté de cette entrevue-là.
La société.
Bien, prenez les médecins. Là. Depuis que je suis en politique, même quand j'étais avec Lucien Bouchard, qui est maintenant un des négociateurs pour les médecins, il est question qu'on doit changer le mode de rémunération des médecins pour qu'une partie, vous savez, ils gagnent 400 000, 500 000 par année, pour qu'une partie de leur salaire soit conditionnelle à une certaine performance, entre autres à une prise en charge des Québécois par les médecins de famille. Or, les deux syndicats de médecins refusent de nous rencontrer, ils refusent de négocier avec nous. On a déposé une loi, puis là, je veux être clair, parce que M. Bouchard a dit des choses qui ne sont pas exactes. On a déposé une loi, la loi 106, qui est nécessaire pour changer le mode de rémunération, pour changer la loi de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie. Ce n'est pas une loi spéciale, mais si c'est nécessaire de faire une loi spéciale, il y aura une loi spéciale.
Ça tranchait avec le discours de Christian Dubé de la semaine dernière qui disait « Il reste deux semaines, on avait fait jouer la clip, j'ai une ouverture d'esprit, je suis prêt à amender des choses, je fais ouvrir des heures de bloc opératoire, venez vous asseoir avec moi, on va régler ça. » Là, François Legault, lui, il a sorti à matraque, il a dit « Hey, one minute, ça va être une loi spéciale si vous négociez pas. »
il faut se rapporter aux objectifs. Le ministre de la Santé, son objectif, c'est un jeu de négociation. Là. C'est un peu comme quand tu es à la pêche. À un moment donné, tu laisses un peu de laisse. Là, puis après ça, tu trolles plus fort, etc. Bon. C'est le jeu de Christian Dubé. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver à une entente, finalement. François Legault, je dis pas qu'il veut pas arriver à une entente, sauf que là, son objectif principal cette semaine, c'est quoi? C'est de se sortir la tête de l'eau.
Oui.
C'est d'essayer d'aller récupérer un peu de popularité, d'expliquer aux Québécois qu'est-ce qu'il veut faire dans la dernière année avant la campagne électorale. Donc, il ne parlait pas aux médecins hier.
Non,
hein,
il parlait à la population.
Oui. Et ces Québécois-là qui attendent pour plusieurs un médecin de famille. Puis, on a vu dans les dernières décennies plusieurs ministres de la Santé essayer de faire en sorte qu'il y ait une plus grande prise en charge. Quand on dit une prise en charge, c'est quand vous trouvez un médecin de famille. Là. Vous devenez le patient de ce médecin-là. Et il y a eu toutes sortes de choses. Hein, des primes. Là, à un moment donné, on a fait un guichet unique, puis là, on a fait un système de classement d'urgence. Là, si tu as une maladie chronique, là, ça va aller plus vite, etc., etc. On n'a jamais réussi à trouver exactement la bonne manière pour faire en sorte que les gens, surtout ceux qui en ont le plus besoin, soient pris en charge par un médecin de famille. Christian Dubé a fait toutes sortes de choses autour. Là. On pourrait parler des pouvoirs qui ont été dévolus à d'autres professionnels de la santé. Après ça, du côté des infirmières, on a mis fin au recours aux agences privées, on a fait une entente avec les infirmières, etc. Là, on est rendu à s'attaquer au mode de rémunération des médecins. Puis c'est là que, vraiment, on rentre dans le morceau qui est plus controversé avec les médecins. Et ils sont tellement fâchés. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'on en parle, je reçois des courriels. Ils sont émotifs.
As-tu eu des courriels, finalement, de gens qui voulaient te parler? Parce que la semaine passée, on a fait un appel à tous, puis on voulait quelqu'un un peu pour discuter. As-tu eu ça?
Bien, je reçois beaucoup d'emails qui me disent qu'on ne comprend rien sur ce qui est leur réalité et tout ça. Puis quand je leur demande, OK, ben, pouvez-vous nous dire, par exemple, quelles erreurs factuelles ont été faites? Il n'y a pas d'erreurs factuelles. On est dans les motifs ici. Moi, j'ai des médecins qui m'ont offert de venir constater, les suivre dans une journée de travail. Moi, ça va me faire plaisir d'y aller, mais je n'ai jamais douté que les médecins travaillaient beaucoup. C'est pas ça la question. La question, c'est comment on fait pour que les gens qui ont besoin d'être suivis par un médecin de famille, pas prendre rendez-vous sur Clic Santé parce que là, tu as une urgence, puis tu as une infection, puis ça presse. Quelqu'un qui te fait un suivi. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un médecin de famille en passant. Moi, j'ai une infirmière de famille, ça se passe très bien. Là. J'ai pas Clairement. Besoin.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Ah oui, j'ai une IPS. Moi, je vois jamais le médecin. Elle me réfère quand j'ai besoin.
Puis c'est toujours avec la même que tu fais affaire?
Bien, c'est une clinique où il y a plusieurs professionnels de la santé. Moi, j'en ai une qui m'est attribuée. Mais c'est
au public, là.
Oui. Okay. C'est extraordinaire. Là. Ça devrait être ça pour presque tout le monde, soit dit en passant. Mais comment on fait pour que le mode de rémunération fasse en sorte qu'on ait la plus grande prise en charge possible? Si c'était 100 % de la capitation, qu'on appelle, là, puis qu'on n'était plus à l'acte, ça encouragerait les médecins à vous prendre en charge, mais pas à vous voir. Quand c'est seulement du paiement à l'acte, ça encourage de faire le plus d'actes possible, mais pas de prendre en charge, surtout des patients vulnérables qui te demandent beaucoup de travail, mais qui finalement, c'est pas tant d'actes.
C'est ça. Donc, de vous voir 7-8 minutes au lieu de vous voir pour un topo complet, exactement.
La qualité serait moins là. Donc, on est toujours dans cette recherche-là. Puis effectivement, le ton de François Legault hier, c'était plus de dire, écoutez, on va aller jusqu'au bout. Puis c'est le message qu'il voulait envoyer aux Québécois, je pense. Yes.
Parlant d'autres messages qu'il voulait envoyer aux Québécois, François Legault a admis ses erreurs. On l'écoute à l'instant.
Bien, écoutez, il y a certaines erreurs que j'ai faites. Je vous en donne quelques-unes.
Oui.
Les Kings de Los Angeles.
Bon, c'était en haut de ma liste.
En haut de votre liste.
En haut de ma liste.
Ah, oui, de dire, je fais venir les Kings de Los Angeles pour montrer à M. Bettman qu'on a un bel amphithéâtre à Québec et qu'il devrait nous donner le retour des Nordiques. C'était pas une bonne idée. C'était une erreur. Bon, tantôt, on parlait de Saclic.
Ouais.
J'aurais aimé ça réagir plus rapidement puis poser plus de questions. Nordvolt, ben si c'est à refaire, c'est sûr, mais c'est facile de jouer comme ça après à votre jeu plan B, de dire on n'aurait pas dû le faire.
La valse du troisième lien, par exemple.
Oui. Bon,
on le fait, on le fait pas.
Mais j'aurais oublié l'hésitation parce que c'est important de le dire là. À Québec, il y a juste un pont qui accueille les camions. Puis pour une question de sécurité économique. C'est en pleine expansion Québec et Lévis, entre autres avec le chantier naval et ce qui se passe en défense. Donc, on a besoin, c'est un vieux pont, on a besoin d'un autre pont. Donc, j'aurais pas dû hésiter parce que l'hésitation, c'est pas toujours bien vu. Je l'ai fait pendant la pandémie.
Ouais.
Les gens ont apprécié que j'admette mes erreurs, mais dans le cas du troisième lien, à Québec, ils n'ont pas apprécié.
C'est-tu trop peu, trop tard? Il me semble que ça aurait dû être après la volée dans Jean Talon en 2023.
Oui, puis quand il y a eu la volée dans Jean Talon, ben, ce qu'il y a eu, c'est on s'excuse, on s'est trompé sur le troisième lien, puis on s'est relancé dans le troisième lien. Cela dit, bon, moi, je trouve ça toujours un peu étrange quand un élu lui-même fait la grande liste des erreurs puis de ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. Ça m'a rendu un peu mal à l'aise comme exercice. Les Kings, c'est facile. Puis clairement, il l'avait identifié quand il s'est préparé pour faire sa tournée d'entrevue.
Il en a parlé immédiatement.
Tout le temps.
Ça a peu d'impact.
Puis c'est-tu vraiment, mettons, sa plus grosse erreur? Puis c'est sans méchanceté, c'était une erreur, moi, je considère dans mon opinion. Mais une fois que c'est dit, c'est une erreur qui est plus émotive que celle du troisième lien où il évoque plutôt qu'il hésitait. Mm-hmm. Puis j'ai oublié le terme parce qu'entre-temps, bon, notre prochain invité est arrivé, puis il a eu le téléphone, mais il a utilisé un terme spécifique, puis le terme qu'il a utilisé quand il a dit, il y a eu hésitation, c'était beaucoup plus une hésitation politique qu'une hésitation à le faire. La manière dont il décrivait, c'est ça n'a pas passé marketingment parlant côté politique. Tu l'évalues comment, toi?
Bien, ce qu'il voulait dire, c'est le troisième lien, c'est pas une erreur, on va le faire. Puis il voulait le rappeler. Puis il s'est jamais gêné pour aller dire ce message-là à Montréal en passant.
Non.
Là, d'expliquer qu'à Québec, on le veut puis qu'on en a besoin. Là, puis c'est pas tout, puis ce message-là passe pas du tout.
Je peux vous en parler en
long puis en large.
Cela dit, si on fait la leçon à Montréal, ils vont nous en tenir rigueur.
Absolument, toujours.
Sens-tu qu'il est vraiment désiré ou plutôt on est allé avec des arguments qui sont arrivés du public ou des citoyens ou du commerce ou.
Ben en fait, il y a des sondages après sondages qui confirment qu'à Québec, c'est populaire là, comme projet. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans ce qu'il dit, c'est que, oui, c'est l'hésitation, mais c'est qu'en fait, c'est arrivé dans beaucoup de dossiers. Fait que finalement, c'est pas le troisième lien, c'est cette approche-là.
Oui,
encore cet été, avec les compressions en éducation, on annonce des compressions. Après ça, ben là, il y a de la grogne, ça sort dans les nouvelles. On est très sensible à ce qui se passe dans les journaux. Puis là, ben on recule, mais on dit « Ah non, c'est pas un recul, c'était déjà prévu de même. » Mais il y a personne qui a acheté cette théorie-là.
François Legault veut-il être trop aimé?
Ben puis d'ailleurs, quand Jean-Sébastien Girard lui pose la question, si c'était à refaire, tu sais, qu'est-ce que vous feriez différemment? Il y avait une longue intro dans laquelle il disait « Vous avez été tellement populaire pendant la pandémie, vous aviez des taux d'approbation. Hein, c'est extraordinaire. »
Ouais, de 85, puis là, vous êtes devenu celui le moins populaire au Canada.
Tu sais, je regardais le visage de François Legault pendant ce... Parce que moi, j'adore regarder les réactions des gens pendant qu'ils parlent pas.
Vas-y, c'est intéressant.
Puis, pendant qu'on parlait de popularité, il y avait un petit sourire, il y avait le regard un peu nostalgique dans le passé.
De ses belles années.
Oui, je pense que ça l'affecte, honnêtement. C'est un policier qui a été très aimé. Là, en ce moment, il est de bon ton de dire que tout ce qu'il fait est épouvantable et qu'il est donc pas bon, mais il a été énormément aimé. Il a été aimé longtemps. C'est une des plus longues lunes de miel qu'on a vues en politique, honnêtement.
C'est clair.
La pandémie y est pour quelque chose. Mais lundi dernier, là, quand François Legault est allé au Stade Canac puis s'est fait huer, là, ça a dû le pincer.
Ça y a fait mal.
Je pense qu'il y a des politiciens que ça les touche moins, mais j'ai l'impression, puis je suis pas dans sa tête, évidemment, mais j'ai l'impression que ça a dû le pincer de se faire huer.
Je remercie Philippe par texto qui dit 7 millions dans une game d'hockey au lieu de l'itinérance ou la santé mentale. C'est complètement ridicule et une erreur monumentale. Je le remercie parce que j'étais pour te dire « Hey là, les Kings, on en revient-tu? C'est une erreur de 7 millions? » Mais il m'a ouvert les yeux sur autre chose. Donc, merci Philippe. On termine, François Legault, avec ses commentaires sur l'immigration.
Depuis 2 ans, le gouvernement fédéral a augmenté de 200 000 à 400 000 le nombre d'immigrants temporaires, en particulier à Montréal. Ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes en éducation, en santé, ça pose des problèmes avec notre langue, puis ça pose des problèmes avec nos valeurs comme la laïcité. La majorité des Québécois n'aiment pas voir des prières de gens à genoux dans nos rues ou devant la basilique Notre-Dame. C'est important de respecter ce que souhaite la majorité des Québécois.
Je veux t'amener ailleurs avec la question parce que moi et Pascal, on va en parler tout à l'heure vers 13h30 avec justement Kim Thieu qui est passé par la suite à Tout le monde en parle. On a sorti des extraits. Manque-tu de sensibilité, notre premier ministre, quand il parle d'immigration?
Ça a toujours été un peu plus difficile. Hein? François Legault, c'est un gars économique. C'est un comptable.
Son obsession, c'est ça. Il sort son fichier Excel d'immigration. C'est ça que, tu sais, quand il parle, j'entends le fichier Excel.
J'ai la misère à le catcher, moi, ça, parce que oui, on dit que c'est ça qu'il représente, mais on ne l'a pas vu au niveau des chiffres, on dirait, sous sa gouvernance. Mais je me trompe peut-être, là.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
Le fait d'être un peu rigide dans ce qui doit rentrer. On a eu beaucoup de débordements de coûts, des défenses de projets X. Il n'y a pas eu un genre de sentiment de « on s'attache la ceinture ».
Oui, effectivement. Cela dit, quand il parle d'immigration, c'est vrai que c'est un peu binaire des fois. Puis des fois, il faut rajouter quelques mots, un peu d'enrobage autour de quelque chose, même si ton message va rester le même. Et moi, je pense que la position du gouvernement, il y a des choses qui sont importantes, qui doivent être dites. C'est vrai qu'en ce moment... Puis avec Ottawa, c'est pas facile. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec tire la sonnette d'alarme, dit c'est trop pour nous, ça dépasse notre capacité d'accueil. Sauf que François Legault, ça fait pas longtemps qu'il a commencé à ajouter, par exemple en intro, c'est pas contre les immigrants, c'est pas contre les personnes. Ça fait une différence. Les mots ont une importance, puis il s'est un peu raffiné récemment. Mais on sent que c'est pas naturel chez lui. Alors que quand, par exemple, Christine Fréchette était ministre de l'Immigration, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose qu'on s'est dit, mon Dieu, mais quel manque de sensibilité. C'est jamais arrivé. Donc, c'est possible d'avoir les mêmes positions, les mêmes messages, mais de pas les... En fait, c'est ça, de pas traiter les immigrants comme des fichiers Excel.
Dans un discours rassembleur, dans un discours où tout le monde fait des compromis, qu'on a besoin l'un de l'autre.
De le véhiculer différemment. Parlant de manque de sensibilité ou de mauvaise communication, je te fais entendre Napoléon Wu, qui est le candidat pour Sam Hamad de Leadership Québec, propriétaire du Walk and Roll à Saint-Roch, qui a parlé d'immigration de cette façon-là lors de sa présentation vendredi dans le comté de Saint-Sauveur-Saint-Roch.
L'itinérance devrait être une période de transition, pas un genre de culture là, que vous mangez gratuit, vous avez des logements gratuits, vous avez des vêtements gratuits. Aujourd'hui, à Québec, tu n'es pas obligé de travailler pour vivre. Il n'y a personne qui est mort de froid là, ou de faim. T'sais, à Saint-Roch, il y a 13 organismes là, qui donnent la nourriture au monde. Là.
Bon, ce matin, j'ai eu un petit débat philosophique avec Yannick Marceau, l'animateur du matin, qui disait « Ouais, mais voyons donc, c'est un commerçant, il est dans la rue, il voit ce qui se passe, on devrait prendre son point de vue. » Puis moi, je disais « Ben, j'aimerais ça que M. Wu prenne un chariot qui aille vivre un mois dans la rue, puis il viendra me dire s'il n'a pas eu fret, il viendra me dire s'il a mangé à sa faim. »
Quand il me décrit, quand il nous décrit comme ça la vie d'un itinérant, comme si c'était un tout inclus, là.
Ouais, c'est ça, le type Club Med, là.
Ouais, c'est
les rues de Saint-Roch dans Slush au mois de février,
je
suis pas le Club
Med. Je me suis demandé
si
c'était pas un choc de réalité, tu sais, de cet homme-là. Je connais pas sa vie, mais mettons, t'arrives, toi, d'ailleurs, puis t'as fui un contexte X, puis il y en a plein qui ont bûché, là. Tu vois, mettons, tous les réfugiés, là, des années... en montant 50 jusqu'à X, Y, Z, 90, il y en a plein, des Cambodgiens, il y en a plein. Eux, ils ont bûché, puis ça, puis je pense peut-être qu'ils n'ont pas l'aspect de santé mentale qu'on voit dans nos rues en ce moment, là, qui joue beaucoup sur les gens en situation d'itinérance. Mais je me demande si ce n'était pas un clash de réalité qu'eux ont vécu en disant, nous autres, on a bûché fort, on est rendu en commerce, on est commerçant et tout ça. Pourquoi est-ce que là, eux, ils sont aidés de cette manière-là quand les filets sociaux n'étaient pas tout à fait les mêmes auparavant? Ça peut être une question de sensibilité, de parcours, vous pensez?
Bien, c'est sûr que ton expérience personnelle va avoir un impact sur comment tu vois les autres, sauf que c'est un manque d'empathie. Moi, parce que j'ai travaillé, les autres... Mais de toute façon, je veux dire, si tu connais un peu la question de l'itinérance, tu sais qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui se mélangent à ça. Souvent, toxicomanie, santé mentale. C'est pas juste une question... En fait, ce qui est grave avec ce que M. Wu a dit, c'est qu'on laisse entendre que c'est des gens paresseux qui aiment être itinérants. Moi, c'est ça que le message qu'on reçoit.
Parce que c'est un tout inclus.
Ça vient, en fait, renforcer des préjugés que, en fait, je trouve que ça vient renforcer des préjugés que j'entends très peu de nos jours, en fait.
Moi aussi.
Je dois vous dire, j'entends la plupart des commentaires que j'entends sur les personnes itinérantes, c'est souvent plein d'empathie. Ce que j'entends plus, c'est que l'itinérance, ça dérange, et ça, c'est correct aussi de le nommer. Des fois, je vais à Montréal, puis il y en a beaucoup plus, évidemment, qu'à Québec, quoi. C'est en augmentation partout. Puis là, quand tu fais un commentaire du style, tu sais, tu vas manger sur une terrasse, puis là, il se passe des choses, disons, à côté de la terrasse, que c'est difficile, puis tu es en famille. Puis tu passes un commentaire, puis il y a des gens qui vont dire, « Mais là, il faut cohabiter, tu es intolérant. » Moi, je me fais traiter de fille de Québec des fois, puis je dis, « Un instant, là, moi, je ne vais pas m'habituer avoir la misère humaine comme ça. Je veux qu'il y ait des services, je veux qu'on s'organise pour qu'il y en ait le moins possible, pas parce que je leur en veux personnellement, puis que je pense que c'est des mauvaises personnes. Mais ça, il faut le nommer. Puis les commerçants dans Saint-Roch qui le vivent, là, l'itinérance, aussi ont des choses à dire, puis il faut les écouter. C'est juste que ce que M. Wu a dit, c'est pas juste il faut en faire davantage notre quartier. Il y a beaucoup de défis. C'est pas ça, là. Il est allé dire que finalement, les gens qui étaient des itinérants, bien, c'est parce qu'ils sont dans une culture de l'itinérance, puis qu'on les entretient là-dedans. Et il en a rajouté en disant que les organismes, Il ne voulait pas éliminer l'itinérance.
L'itinérance,
en
parce
fait.
Qu'il voulait recevoir des subventions.
Oh, God.
Parle à Éric Boulay de l'Aube-Rivière ou à d'autres organismes. D'ailleurs, on va avoir Benoît Côté, justement, qui est directeur d'un regroupement d'organismes, qui s'en vient dans quelques minutes nous en parler. Voici la défense de Sam Hamad par rapport à son candidat sur nos ondes ce matin, dans Marceau le matin.
Qui habite là. Ouais. En fait, c'est un gars qui est frustré, comme la majorité des citoyens de Saint-Roch. Il est frustré.
C'est un homme d'affaires.
C'est un homme d'affaires. Il y a un restaurant là. Et il a eu des problèmes dans son restaurant. Lui, là, il a souffert de ce qui arrive à Saint-Roch. Fait que c'est un être humain. Frustré, il a sorti ce qu'il pensait sans faire un filtre.
C'était à Sam Hamad de regarder son candidat avant, de le préparer et de dire « Ouais, c'est-tu ça? On va laisser faire. »
Mais c'est parce que c'est ça. On comprend le vécu là, de M. Wu. C'est juste qu'à un moment donné, si ton vécu fait en sorte que tu sors des propos comme ça, qui sont déshumanisants, je pense, envers les personnes itinérantes, ben est-ce que tu veux vraiment présenter quelqu'un comme ça dans ton équipe? Donc là, ça vient poser la question sur comment on filtre les candidats dans l'équipe Hamad. Est-ce que c'est des propos avec lesquels on est d'accord? Est-ce qu'on approuve ces propos-là? Puis on a bien vu que M. Hamad ne les approuvait pas, en fait. Pendant le point de presse, dans le fond, là, ce que Napoléon veut dire, c'est ça. Là. On le voyait bien qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Mais là, ça nous amène à penser à la campagne de Sam Hamad. Il n'y a pas besoin de d'autres tuiles, Sam Hamad, présentement. Là.
Ouais, c'est
ça. Sa notoriété, c'est beaucoup là-dessus que sa campagne est basée. T'es pas dans un mode où c'est parlez-en mal, parlez-en bien, là, comme par exemple d'autres partis qui essayent des fois d'avoir de l'attention médiatique, etc. Ils devraient beaucoup plus axer sur la crédibilité. Puis c'est sûr que quand on entend des choses comme ça, surtout quand tu présentes un candidat dans Saint-Roch, il y a combien d'organismes dans Saint-Roch qui travaillent? Puis là, tu as un candidat qui sort puis qui les envoie promener.
Ben, c'est surtout l'enjeu principal du quartier. C'est l'enjeu principal aussi de la candidature aussi de Bruno Marchand. C'est vraiment ce qui est prôné en termes de devoir gérer ici dans la ville de Québec. Et c'est là où mon commentaire, je le trouve un peu... Je trouve que Sam Hamad donne raison sur l'émotivité de la chose. Quand tu t'en vas en politique, ou dans ta vie en général, quand tu es trop collé sur quelque chose, il faut que tu prennes un pas de recul. Il faut que tu ailles parler à des gens qui le vivent autrement, qui le pensent autrement, juste pour te réaligner. Puis je pense que peut-être cette candidature politique-là aurait été un peu à gérer, à discuter. Toi, c'est quoi ton opinion? Où est-ce que tu veux te rendre? Parce que c'était sûr que tu ne peux pas passer à côté de l'enjeu de l'itinérance quand tu te présentes dans Saint-Roch.
Avant qu'on termine le caucus avec des textos, parce que ça fait énormément réagir, on a des excellents textos. Antonine, Sam Hamad a-t-il voulu faire trop différent des autres partis puis il s'est planté?
Ben moi, pour l'instant, je vois pas les fruits là, de cette stratégie-là d'essayer... En fait, je trouve que c'est intéressant aussi des fois de se dire, bon... Est-ce qu'on veut toujours des campagnes qui sont léchées avec le message qui est hyper formaté? C'est correct. C'est juste que quand je regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec ce candidat-là, il n'y en a pas de plus. Il n'y en a pas d'avantage là-dedans. Quand tu veux démontrer une crédibilité puis que tu vas gérer la ville, ça donne l'impression qu'il y a de la difficulté à gérer sa campagne.
Donc, son équipe.
Donc, j'ai pas... Puis tu sais, les autres, les jeux d'eau puis tout ça, c'est pas grave, OK? Ça serait arrivé à n'importe qui. C'est comique, c'est pas grave. C'est juste l'accumulation de toutes les gaffes, de toutes les tuiles qui ont tombé sur la tête avant même le début de la campagne, ça donne une impression de désorganisation.
Puis est-ce que tu penses que c'était vraiment organisé, Antonine?
De quoi?
Bien, tout ça avec son programme qui prend du temps à arriver, le moment où il a annoncé sa candidature.
Non, je pense pas que c'est organisé. Je trouve que c'est désorganisé.
Oui, tu dis ça semble désorganisé, mais il y a beaucoup de gens qui nous parlent, qui trouvent tout simplement que c'est quelqu'un qui semble s'être envoyé en politique avec sa notoriété, mais pas nécessairement de plan. Puis dans le choix des candidats ou dans le choix de ce qu'ils nous annoncent pas, je mets en parenthèse en ce moment, il y a comme un genre de conclusion là, qui s'amène qui peut être très, 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 très négative pour la suite des choses.
Bien, moi, je pense que M. Hamad, c'est un politicien qui a de l'expérience et il a rencontré beaucoup de gens avant de se lancer puis il a réfléchi à quand même pas mal d'enjeux. Moi, je pense pas qu'au niveau je pense pas qu'il a sous-estimé ce que ça allait être pour sa vision, pour le programme, etc. Mais dans l'exécution, c'est comme s'il y avait de l'amateurisme que on accepterait peut-être de quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais devenant quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un peu étrange.
Par texto, je veux féliciter une auditrice qui dit « Moi, j'ai été itinérante de 19 à 23 ans. Ça fait 3 ans que j'ai une vie stable, puis je ne retournerai pas comme itinérante jamais. Félicitations de t'en être sortie. » Pascal, qu'est-ce que tu as retenu par texto?
Énormément de choses. bon, entre autres, les politiciens sont déconnectés, sont restés pris dans la pandémie, mais si on évoque l'itinérance, il dit « Il n'y a pas à mesurer les nouveaux paramètres de l'itinérance, c'est certain. » Quelqu'un également qui dit « Bon, moi, dans mon cas, je ne comprends pas comment ça s'est passé pour ces commentaires-là. Ma sœur est policière à Montréal et c'est très difficile de les sortir de la rue, effectivement. Les dépendances, la santé mentale, c'est la principale raison de ce problème. Il y en a beaucoup qui apprécient ce style de vie-là, qui sont bien là-dedans, d'accord, mais je crois qu'il y a justement des organismes pour les entourer, les encadrer. La principale impression, c'est leur sécurité. » Bien d'accord avec les propos dits par votre invité, ça doit être toi, Santo, par rapport à comment tu parlais d'itinérance. Clairement, ce qu'on fait pour les itinérants, ça fonctionne zéro. Il y en a, on dirait qu'ils ne veulent pas s'aider. Puis là, c'est une prétention de croire d'un auditeur. Ouais. Pour certains, ils disent ils volent, ils brisent, ils font peur aux gens, ils consomment drogue, alcool. Bon, ils se lâchent aussi côté besoins personnels et naturels un peu partout. Et on dit c'est pas simple. Fait qu'on voit qu'on a un peu les deux discours. Là. Celui qui est plus émotif, qui est un peu rapporté par M. Hou, puis celui qui est plus dans la conscience de tout ce qui est santé mentale en arrière de ça.
Puis moi, je termine avec cette portion du caucus Iaccarini, que je le rappelle, est en onde du lundi au jeudi à partir de midi. Marc qui nous écrit « C'est la première fois que je vous écoute le midi. Mon Dieu que ça manque de genre de discussion-là dans les médias. De la nuance, tous les côtés de la médaille, etc. Merci et bravo pour ce que vous faites. » Hey, c'est-tu pas le fun de finir avec ça, un bon petit commentaire de Marc? Merci, Marc. C'est très apprécié. Oui, on essaie toujours de démontrer les deux côtés de la médaille, puis on essaie toujours d'être le plus juste possible et le plus conséquent. Antonin Iaccarini, on se garde le sujet de l'éducation dans le parking, comme j'appelle?
Absolument, on aura le temps d'en parler.
Ouais, exactement, ça va continuer à brasser en éducation. On parle beaucoup de couples là, qui font en sorte qu'il y a des activités d'enlever dans les écoles, mais moi, coudonc, je le vis pas à l'école des sentiers avec mon Edou.
Tant mieux.
Pas pantoute. Le football roule à plein régime, les activités roulent à plein régime. Donc, à voir là, ceci dans le futur. Merci, Antonine, pour cet excellent caucus, Iaccarini.
À demain.
On se parle demain. On fait une courte pause et par la suite, Benoît Côté vient s'installer, un spécialiste en itinérance à Québec, justement pour revenir sur les propos de M. Napoléon Wu. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission On en jase.
On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.